Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de d'Aligre FM. Écoutez, on est heureux de vous accueillir pour cette émission qui est une émission un peu particulière puisque c'est une émission de lancement de notre nouvelle semaine thématique. Alors vous savez, si on parle d'engagement, si on parle de solidarité, si on parle de lien social, d'action sociale, culturelle, éducative, dans un contexte non lucratif, et si on cherche à donner un cadre à tout cela, eh bien vous savez, il y a en France quelque chose qui le permet, et ça s'appelle les associations dont nous allons fêter les 125 ans de la célèbre loi, ce qu'on appelle, qu'on appelle communément la loi de 1900, la loi Waldeck-Rousseau, pardon, et on va fêter les 125 ans le 1er juillet. Alors, pour rappeler simplement, les associations, c'est devenu l'un des plus grands réseaux de solidarité et d'engagement citoyen du pays qui mobilise un nombre de bénévoles absolument incroyable. Juste, on va pas vous assommer avec des chiffres ce matin, mais en France, c'est à peu près 1,5 million d'associations en activité. 73 000 associations qui se créent chaque année, 13 millions de bénévoles, 5,5 millions de personnes engagées chaque semaine. 1,9 million, presque 2 millions de salariés qui travaillent dans les associations, un emploi privé sur 10 en France et 2/3 des Français qui sont impliqués dans la vie associative, soit parce qu'ils sont bénévoles, soit parce qu'ils sont adhérents, soit parce qu'ils sont donateurs. C'est vous dire l'importance des associations. Alors, Aligre a décidé de consacrer une semaine entière aux associations pour célébrer les 125 ans de la loi de 1901, mais aussi pour mettre en questionnement l'avenir menacé des associations dans un contexte budgétaire, on vous le dit tous les jours, qui est menacé, et sans vouloir faire de politique fiction, dans un contexte où on pourrait imaginer que les libertés associatives soient aussi menacées. Alors, pour lancer cette semaine thématique, on a le plaisir de recevoir la présidente d'Aligre, qui est aussi la rédactrice en chef, mais qui est aussi l'initiatrice de ces semaines thématiques, Nadia Itaïev. Bonjour Nadia.
Bonjour Jean-Marc.
Alors, Nadia Itaïev, avant de parler du fond, est-ce que vous pouvez nous rappeler aux auditrices et auditeurs ce que sont les semaines thématiques sur Aligre?
Alors, ce qu'on a appelé dans une désignation un peu interne la semaine thématique, ce sont des semaines entières que nous consacrons à un sujet de société qui nous semble important. C'est le cas pour cette semaine que nous consacrons à la vie associative et aux libertés associatives. Et cela permet de fédérer l'équipe d'Aligre autour d'un projet commun. On va parler de commun aujourd'hui, ça tombe bien. Chacun déclinant le thème sous l'angle qui correspond à sa sensibilité et également à l'émission qui l'anime, avec en même temps un fil rouge qui permet de définir un angle éditorial, celui de la vie associative. C'est évidemment un questionnement, vous l'avez dit, à la fois sur la vitalité de cette vie associative, vous l'avez rappelé avec quelques chiffres, et en même temps sur les menaces qui planent sur elle. Donc voilà, on arrive à notre sixième, je crois, semaine thématique. Si on regarde un peu en arrière, nous avons consacré également une semaine à l'artisanat, mais aussi aux réfugiés politiques dans un partenariat avec Nanterre, c'était il y a quelques années. Voilà, et puis on continuera, j'espère.
Nadia Itaïev, ça fait pas de mal de se faire un petit peu de pub à soi-même. même. Ça existe nulle part ailleurs, ça, les semaines thématiques.
Alors si, sur le service public, Radio France consacre des journées, souvent.
Des journées,
voilà, des journées. Thématiques. Oui, mais alors, vous savez que...
Radio... Toutes les émissions sont déclinées, c'est ça.
C'est ça, absolument. Mais la singularité d'Aligre, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de moyens, comme beaucoup d'associations, mais qu'elle a du temps. Voilà, donc elle prend le temps d'écouter, d'interroger et le temps aussi de décliner un thème sur une semaine et non pas seulement sur une journée parce que ça nous semble important.
Alors, cette semaine, donc, qui démarre aujourd'hui, le 29, et qui va s'arrêter le 5 juillet, a été consacrée, vous avez choisi de le consacrer aux associations, c'est dur à dire, pourquoi ce choix
Alors,
éditorial
c'est, pour rendre à César ce qui est à César, c'est une idée qui a été suggérée par un animateur d'Alire FM, François Delaunay, et il m'a semblé intéressant, effectivement, à un moment de notre histoire où, d'abord, nous célébrons cette fameuse loi 1901 qui autorise la liberté d'association sans but lucratif, c'est très important. Il m'a paru effectivement intéressant de dresser un état des lieux, d'une part, du monde associatif qui se caractérise par un paradoxe puisqu'il est d'une vitalité encore extraordinaire, mais les moyens qui lui sont alloués sont en baisse. Pour mémoire, c'est une baisse de 24% qui était prévue dans le budget d'État de 2026. Hein, 24, dans sa version finale, les crédits alloués au programme Jeunesse et Vie Associative ont été réduits de 24% et dans le même temps, l'aide publique au développement de 18%. C'est dire qu'il y a véritablement, pour certaines associations en particulier qui ont peu de moyens, un risque important de fragilisation qui peut aboutir à une disparition. Or, que seraient nos vies, notre société, sans les associations ? Il suffit de se poser la question, puisque nous avons tous, à un moment de notre vie, soit pour nos enfants, soit pour nous-mêmes, recours aux associations, que serait notre société si la plupart des associations, dans un scénario que nous espérons évidemment fiction, étaient amenées à disparaître.
Oui, on va reparler d'ailleurs de ces menaces et de ce relais à la fois, ce relais citoyen et aussi démocratique. Est-ce que derrière le thème des associations, il n'y a pas aussi le sujet de l'engagement et du désir de beaucoup de gens en fait, de s'engager ?
Oui, le monde associatif, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une mise en valeur du commun et donc de l'envie de faire corps, d'œuvrer collectivement autour d'un sujet. Donc ça, c'est un espace de l'exercice de la citoyenneté et en cela, c'est évidemment un pilier fort de notre démocratie. Et c'est effectivement une réponse à un désir de ne pas seulement subir, mais aussi parfois de s'engager, notamment quand il s'agit de causes importantes, et parfois aussi de répondre à un contexte historique, par exemple la CIMAD, qui œuvre aujourd'hui beaucoup pour venir en aide aux exilés, aux migrants. Rappelons-nous qu'elle est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour venir en aide à toutes les personnes qui avaient été jetés sur les routes de l'exil au moment de l'invasion de la France par l'Allemagne. Donc, c'est ça. C'est vraiment que puis-je faire, moi, citoyen, avec d'autres citoyens, en dépassant l'échelle individuelle, puisqu'on est plus fort ensemble, pour apporter ma pierre à l'édifice social, culturel, économique, etc. etc. Comme le rappelait très, très bien l'historien Pierre Rosanvallon, dans son intervention au CESE, au moment où ont été mis en où l'accent a été mis sur les difficultés du monde d'association, du monde associatif, pardon, les associations remplissent trois fonctions sociales, avec un ancrage fort dans les territoires, donc c'est important, c'est vraiment une expérience de terrain très concrète.
J'allais y venir, voilà. Mais vous m'avez devancé.
Et une fonction culturelle, et la culture c'est très important, parce que ça réunit et donc ça permet aussi de dépasser parfois des stéréotypes, des représentations véhiculées par des idéologies politiques, en étant au plus près de l'autre, dans son altérité, dans ce qu'il peut apporter aussi à l'édifice. Et puis, c'est évidemment une fonction démocratique qui permet de faire affleurer dans l'espace social ce qui se vit au plus profond de la société. Et en cela, les associations sont précieuses. Il faut les défendre.
Alors, justement, on parlait de ce cadre légal. J'avais pas prévu de vous poser cette question, mais pardonnez-moi, je fais un peu d'improvisation. La Troisième République, c'est 1881, la liberté de la presse, 1881 aussi, la liberté de réunion, et 1901, la liberté d'association. Donc, c'est un moment fort de la Troisième République. Est-ce que c'est aussi ce cadre légal? Est-ce que c'est aussi un cadre républicain, de votre
Alors,
point de vue?
Oui.
Pardon pour la question qui est un peu vaste.
c'est une question qu'il faut poser aux historiens et qui sera sans doute soulevé dans des émissions avec Jean-Baptiste Jobard notamment, ou Yannick Blanc, qui sont invités cette semaine et qui vont nous permettre à la fois de remettre en perspective historiquement la loi de 1901 et puis de dresser un état des lieux de ce qui se joue aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question, ce qui m'a semblé intéressant quand j'ai lu au sujet de l'histoire de cette loi, c'est que elle arrive tard, finalement. Elle arrive assez tard. Hein, la Révolution française s'est beaucoup méfiée, et toutes les périodes qui ont suivi, de tout ce qui ressemblait à un corporatisme d'ancien régime. Et à commencer par les corporations religieuses, mais pas seulement
les
congrégations. Et donc, il y a cette méfiance et cette prévalence de l'individu face à un État, plutôt que l'encouragement au collectif. Bon. Et puis, à la fin du 19e siècle, vous l'avez rappelé, arrivent les premières lois sur la liberté de la presse, par exemple. Et finalement, en 1901, c'est la fameuse loi promulguée par Waldeck-Rousseau, loi 1901, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui fonde le droit d'association sur des bases entièrement nouvelles, puisqu'elle préserve la liberté et les droits des individus, tout en permettant leur action collective. Ce qui est une manière de mettre fin au régime d'interdiction préventive qui était prévu notamment par la loi Le Chapelier, adoptée en 1791. Et donc c'est intéressant parce qu'on revient à des valeurs fortes de la Révolution française, mais qui n'avaient pas vu le jour, ou bien par intermittence avec des suppressions, sous la forme d'une liberté associative. Donc c'est la primauté de l'individu, de ses droits, de sa liberté, la liberté d'adhérer ou de sortir d'une association, la limitation de l'objet de l'association à un objet défini, l'égalité des membres d'une association et l'administration de l'association par libre délibération de ses membres. Ce qui fait aussi de l'espace associatif un exercice concret de la démocratie.
Absolument. Oui, oui. Une sorte de décentrement, pas de décentralisation, mais de décentrement de la démocratie. Alors juste pour rappeler quand même l'importance des associations dans le fait de faire société, dans le fonctionnement de la société, les secteurs qui recourent le plus aux associations, c'est déjà en premier lieu le sport. Hein. Tout le monde a son gamin inscrit dans une association sportive. C'est près de 25%. Ensuite, près de 20% la culture et le spectacle, les loisirs, l'action sociale, l'éducation, la formation et puis plein d'autres secteurs. Derrière la question des associations et de ce désir qu'on sent des citoyens de faire société ensemble sur des causes communes, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots par rapport à nos amis, il y a aussi la question du bénévolat, c'est derrière tout ça. Oui. L'engagement et le bénévolat, même si les associations sont à but non lucratif, on a dit qu'il y avait 2 millions de salariés, mais derrière, il y a un nombre incalculable de bénévoles.
Oui, c'est ça. Et donc, alors, avec une crise du bénévolat aujourd'hui, qui pose aussi une question intéressante relative au modèle associatif, parce qu'il y a les salariés, les bénévoles de l'autre, et quand on ne peut plus salarier faute de moyens, on fait appel à des bénévoles pour faire un travail qu'ils n'ont pas forcément prévu de faire initialement, de recherche de financement par exemple, de gestion administrative, etc. Oui, alors en même temps, le bénévolat, et je salue au passage France Bénévolat, association précieuse aussi, qui nous a permis ici à Radio Aligre de faire venir un certain nombre de techniciens, d'animateurs qui étaient séduits par le projet d'une radio associative de 45 ans. Le bénévolat, c'est vraiment un engagement à but non lucratif, justement. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que c'est se mettre au service de valeurs, d'une cause qui nous anime et qui donne du sens aussi à notre engagement citoyen.
D'ailleurs, pour les auditrices et auditeurs qui ne le savent pas, sur Aligre FM, nous sommes tous bénévoles, de la présidente aux techniciens, aux animateurs, tout le monde est bénévole.
Nous sommes tous bénévoles et passionnés. Mais il faut quand même rappeler que dans la longue histoire d'Aligre FM, nous avons eu des salariés et que nous avons, faute de moyens et du fait de la baisse de subventions, dû nous en défaire, ce qui n'est jamais simple.
Alors, nous, on est là sur Aligre FM, on est une radio qui est parisienne, mais qu'on peut écouter partout en France. Derrière la question des associations, il y a la question du lien social, et du lien social qui est d'autant plus nécessaire lorsqu'on est dans les territoires et lorsqu'on est intéressé à la vitalité des territoires. C'est ça aussi, les associations.
Oui, bien sûr, et il y a des territoires où la vie associative est d'une vitalité absolument extraordinaire. Je lisais hier, en préparant cette émission, que la Franche-Comté, par exemple, est l'un des territoires où il y a le plus d'associations et des milliers de bénévoles. Et c'est un territoire qui est également, dans cet aspect, en tout cas, fragilisé par les baisses de subventions d'État, mais aussi des collectivités territoriales. Je suis aussi tombée, par exemple, sur l'évocation d'une association qui m'a vraiment touchée. Il s'agit de la Maison du Peuple de Saint-Claude, qui est un tiers-lieu dans le Jura, qui existe depuis la fin du 19e siècle et qui est vouée notamment à l'éducation populaire. Et ça passe par beaucoup d'activités culturelles, mais aussi par un cinéma d'art et d'essai dans une commune de quelques milliers d'habitants. Et c'est une association qui est menacée de disparition et également fragilisée par les questions de financement. La Franche-Comté, je retrouve sur mes notes, c'est 16 000 personnes qui travaillent dans des associations. C'est le plus gros pourvoyeur d'emplois, le secteur associatif en Franche-Comté.
Bah, on a dit tout à l'heure les chiffres, prends ma feuille, c'est un emploi privé sur 10 en France, les associations. Donc si on met ça effectivement dans le territoire, on voit l'enjeu absolument incroyable. Est-ce que c'est aussi, les associations sont aussi un relais démocratique ?
Oui, on l'a un peu dit, bien sûr c'est un relais démocratique. Dans le sens où c'est un engagement citoyen, dans le sens aussi où fonder une association, créer une association, c'est parfois répondre à des manquements de l'État aussi et à des missions de service public. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit retour en arrière nostalgique. 1985, souvenez-vous, on entend sur les antennes de toutes les radios, ça.
Moi, je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Voilà, alors on peut évidemment discuter sur ce que sont devenus les Restos du Cœur et sur toutes les polémiques autour des enfoirés, etc. Évidemment, là, c'est une personnalité publique qui met son succès, sa popularité au service finalement d'une population où la précarité, la pauvreté sévit. Et depuis, elle a augmenté, ce qui a obligé aussi les Restos du Cœur à trouver d'autres sources de financement. Et même une grosse structure comme ça, présente sur tous les territoires, a pu rencontrer des difficultés de financement. Mais ce qui m'intéressait dans cette chanson emblématique, c'est évidemment le discours de Coluche, parce que ça met l'accent aussi sur un mot fort auquel je suis très attachée, c'est celui de la solidarité. Mmh. Et la solidarité, c'est un ressort démocratique. Parce que la solidarité, c'est ce qui permet de dépasser aussi les différences et de regarder l'autre comme mon semblable. Donc c'est ce qui donne du sens au mot fraternité, égalité, qui sont l'emblème de notre constitution.
C'est effectivement des lieux de solidarité et de fraternité. Mais c'est aussi, je reviens sur la question démocratique et sur la question de faire société, parce que les associations, c'est aussi, d'abord, je pense que toutes les auditrices et auditeurs, on s'adresse directement à vous, là vous faites tous partie d'une association, je suis sûr, il y a énormément de présidents en France, hein, vous savez, vous êtes tous présidents de quelque chose, mais c'est aussi des associations, des lieux où ça discute, où ça s'engage, où ça s'engueule aussi. Bref, des lieux où la démocratie s'exerce dans des moments où les gens se sentent un petit peu dépossédés de leur pouvoir de décision, parce qu'ils votent une fois tous les 5 ans, puis après on les écoute plus trop. Là, c'est aussi le moyen pour les citoyens de se faire écouter, de jouer directement, de s'impliquer dans le jeu démocratique. On peut faire confiance aux citoyens.
Oui, bien sûr, c'est une manière de redevenir acteur, de ne pas attendre, de ne pas seulement dépendre de la volonté publique, mais de prendre toute sa place dans la société. Et on voit bien combien des associations comme la Fondation des Femmes aussi en ce moment, ou bien l'Amicale du Nid que je recevrai tout à l'heure à 11h, sont très impliquées sur des questions de société, la pédocriminalité par exemple, la généralisation de la prostitution des mineurs. Sans ces associations, je pense que ces sujets-là ne prendraient pas toute leur place dans l'espace du débat public. Et parfois, le rôle des associations, c'est aussi de peser sur une volonté politique balbutiante, hésitante, résistante, qui oppose une inertie, une lourdeur, parfois administrative. Et c'est prendre les choses en main et sur le terrain, concrètement, affronter des réalités. C'est revenir en fait au principe de réalité contre la théorie politique. Voilà. Et les associations jouent un rôle très important de consultants du monde politique.
Alors, on va parler, là, on a vu que c'était, le cadre est très beau, mais il y a des menaces. Et je vous propose qu'on fasse, on va en parler, mais je vous propose qu'on fasse une pause musicale avec le pianiste Giovanni Mirabassi, La Butte Rouge.
2026, 125 ans de la loi 1901. Du 29 juin au 5 juillet, Aligre FM célèbre et défend la liberté associative. Soyez à l'écoute sur 93.1, aligrefm.org et en DAB+.
Et oui, vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 en compagnie de sa présidente Nadia Etayeb pour cette émission de lancement de la semaine thématique, comme vous venez de l'entendre, consacrée aux associations du 29 juin au 5 juillet. Alors Nadia Etayeb, on a dit que tout était beau, le cadre est magnifique et permet des choses absolument formidables, mais en même temps, il y a des nuages quand même dans le ciel et il y a un certain nombre de menaces, des menaces qui peuvent être d'ordre budgétaire, qui peuvent être d'ordre politique et qui peuvent être aussi d'ordre citoyen aussi. Où est-ce qu'on en est et est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les associations et la liberté associative justement subissent des menaces ? Est-ce que vous avez des craintes ?
Oui, alors effectivement, on peut avoir des craintes. Moi, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais j'ai évidemment, pour encadrer cette semaine consacrée aux libertés associatives, à leur défense et à leur promotion, je me suis un peu documentée. Et en me documentant, d'abord, je suis tombée sur un chiffre, c'est 12 305 emplois qui ont disparu en 2025, selon une enquête Mediapart. Vous imaginez, 12 305 emplois. C'est énorme. Et puis, quand on s'intéresse un peu au sujet, évidemment, on tombe sur l'appel lancé par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui, je vous le rappelle, est la troisième institution importante dans notre démocratie, hein, puisqu'il y a l'Assemblée générale, le Sénat et le CESE qui joue un rôle de consultant auprès des deux autres. Et en 2024, le CESE, suite à une vaste consultation lancée auprès de plusieurs associations dans toute leur diversité, tant sur le plan des activités que sur le plan du modèle économique, ont lancé un signal d'alarme et adopté à l'unanimité un rapport intitulé « Vie associative, urgence démocratique ». Je vous propose d'écouter Dominique Joseph, qui fait partie du groupe Santé et Citoyenneté, et Martin Bobel, du groupe des associations, qui lance quelques préconisations. Puis, si vous voulez, on revient après.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Il faut imaginer un monde sans associations pour comprendre combien leur rapport à l'économie, à la société et à la démocratie est considérable.
Après les interpellations des Restos du Cœur, des centres sociaux, des secteurs de l'éducation populaire, dans un contexte de baisse significative de subventions et dans un contexte d'inflation, le CESE lance aujourd'hui une alerte.
Augmenter significativement les subventions de l'État et des collectivités territoriales à destination des associations.
Créer un fonds de mobilisation nationale pour la vie associative qui permette à l'ensemble de la société d'y participer financièrement et qui soit co-gouverné par les pouvoirs publics et les associations.
Protéger les associations de la concurrence et restaurer la confiance en sécurisant la subvention dans des cadres de gouvernance rénovés.
Ce travail du CESE est une alerte et un appel à la vigilance renforcée de tous et toutes pour la pérennité du monde associatif. Il y a urgence à agir.
Et oui, on vient d'entendre effectivement ce document du CESE. Alors Nadia et Taïeb, on voit l'importance effectivement de maintenir le niveau de subvention. On va y revenir après, notamment on parlait tout à l'heure des territoires. On voit qu'il y a dans certains secteurs, notamment des secteurs culturels, des collectivités territoriales qui suppriment purement et simplement des subventions au secteur culturel qui est tellement fondamental pour la cohésion sociale. Derrière, on sait qu'il y a des partis pris politiques, en fait, derrière ces subventions. Mais selon vous, qu'est-ce qui aujourd'hui, rend le monde associatif fragile ?
Alors, si, il y a plusieurs facteurs et on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette semaine, en compagnie notamment de Jean-Baptiste Jobard, qui est très pointu sur toutes ces questions. Mais si on fait une rapide synthèse, le monde associatif est, on l'a dit, impacté par la baisse des subventions. 24% du budget alloué, c'est énorme. Mais ça n'est pas seulement la baisse des subventions qui est en cause, c'est aussi le moyen de les obtenir, en fait. Et le recours de plus en plus, du côté, par exemple, des collectivités territoriales, à des appels à projets. Ce qui, de facto, place les associations dans un modèle concurrentiel. C'est-à-dire qu'il faut monter des projets, le meilleur aura la subvention.
Mais pour monter des projets, il faut de l'argent.
Voilà, exactement. Et pour monter des projets, il faut de l'argent. Et souvent, ça revient à prêter aux riches, c'est-à-dire aux associations qui ont encore des budgets suffisants pour mobiliser des salariés sur ces appels à projets. Parce que monter un dossier, c'est complexe, ça demande des compétences particulières que des bénévoles n'ont pas forcément. Ça demande beaucoup de temps aussi, et ce temps, il est pris sur d'autres activités qui étaient centrales. On pourrait en parler avec Aligre FM.
Puis, d'autant que, enfin, si vous regardez un peu le code des marchés publics, quand vous soumissionnez, ça vous coûte effectivement beaucoup d'argent pour monter un projet, mais si vous n'êtes pas retenu, c'est à fond perdu.
Oui, absolument, c'est ça. Donc, il y a cette logique concurrentielle qui plane sur le monde associatif, et puis qui fait que le monde associatif, finalement, devient une espèce de variable d'ajustement dans les services publics, avec souvent des missions de service public qui lui sont déléguées, mais des moyens qui ne suivent pas toujours. Et donc là, il y a un hiatus qu'il est important aussi d'avoir en tête. Et puis, il y a un versant plus politique. On a vu certaines communes où le RN est arrivé au pouvoir supprimer des subventions à des associations. Et puis, il y a tout ce qui se joue autour de la loi adoptée le 24 août 2021 qui conforte le respect des principes de la République. Cette loi dite séparatisme qui a imposé le contrat d'engagement. Alors, bien évidemment, il est normal que l'État veille à ce que les associations ne soient pas, ne deviennent pas certaines associations des nids idéologiques. Mais en même temps, où commence l'encadrement et où commence la censure? Voilà, voire l'autocensure. Donc ça, c'est Fréquence Droit, l'émission portée par la Ligue des droits de l'homme qui en parlera ce soir à 18h beaucoup mieux que moi, en compagnie de Romain Thor, de Politis, de Marion Augier, qui est membre de la LDH, et de Jean-Baptiste Jobard, qu'on écoutera à deux reprises durant cette semaine consacrée aux associations. Voilà, donc je pense qu'on a un peu fait le tour. Et puis, il y a aussi une crise de l'engagement bénévole qui est sans doute liée à la crise sociale, économique que l'on vit. Les bénévoles s'engagent moins longtemps, même si, rappelons-le, le secteur associatif, c'est aussi un espace de formation. Hein, c'est-à-dire que recruter des bénévoles techniciens dans une radio associative, par exemple, je parle de ce que je connais, c'est aussi leur permettre de se former. Et on a ici des techniciens qui, après être passés par Aligre FM et avoir été formés sur Aligre FM, se retrouvent à Radio France. Voilà.
Il y a un contexte aussi plus général, hein. C'est le contexte budgétaire ne n'incombe pas uniquement à l'État, même si c'est ou aux collectivités territoriales, mais c'est vrai qu'il faudrait regarder les chiffres, mais on a le sentiment que les donations sont effectivement en baisse, les mécénats n'en parlons pas aussi, parce que c'est lié aussi à des questions fiscales. Mais moi je voudrais reparler de la partie politique. On a dit en début d'émission, Troisième République, liberté de la presse, liberté de réunion, la loi sur les associations. On a l'impression qu'en fait, ces idéaux républicains pourraient être on ne va pas faire de politique fiction, ni crier avant d'avoir mal, mais on est aussi, nous, et c'est aussi l'enjeu de cette semaine thématique, dans un devoir de vigilance.
Oui, absolument. Dans un devoir de vigilance, et c'est un peu l'objet de cette semaine que nous consacrons aux libertés associatives, et de vigilance aussi par rapport à une loi de marché qui pourrait être appliquée au secteur associatif, alors même que la grande singularité de la loi 1901, c'est que l'économie est un moyen et pas une fin en soi. C'est ça aussi toute la valeur de la loi de 1901. Et donc, si nous ne sommes pas vigilants, effectivement, il y a là quelque chose qui peut dénaturer l'esprit même de la loi de 1901. J'ai parlé de la logique d'appel d'offres qui contraint une maîtrise parfois technocrate, justement qui là aussi va contre l'esprit d'une loi qui oppose à l'approche technocrate, étatique, etc., des réalités vraiment vécues de terrain concrètes qui permettent de construire à partir de l'existant, de ce qu'on observe, de l'expérience locale, territoriale, de l'expérience de proximité. Et puis si on n'est pas vigilant, ce sont des secteurs entiers qui vont être amputés d'engagements qui sont précieux, on l'a dit, la santé, la culture, l'éducation populaire, le sport aussi comme facteur d'inclusion, le handisport, le secteur associatif. On a tous été émerveillés il y a 2 ans par les Jeux Olympiques et les Paralympiques qui ont suivi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les vocations, l'accompagnement, l'encadrement, ça commence d'abord dans le secteur associatif.
D'ailleurs, pardon, je fais une petite parenthèse comme ça, d'expérience tout à fait personnelle. Si vous avez l'occasion, où que vous soyez en France, d'aller voir le formidable film de Laetitia Masson, qui s'appelle Ulysse en ce moment, qui reflète aussi la défaillance des pouvoirs publics sur un certain nombre de secteurs et la vitalité des associations qui, effectivement, prennent ce relais. Allez voir ce film, c'est un très beau film.
Pardonnez-moi, Jean-Marc, je complète, parce que ce que vous dites est vraiment très intéressant, dans le secteur de la santé mentale des enfants, de l'autisme notamment, effectivement, le secteur associatif, parfois avec très peu de moyens, mais beaucoup de passion, de bonne volonté, pallie encore les manques de l'État.
Absolument, mais ce film en est la démonstration concrète. Est-ce que vous avez le sentiment, on va faire une pause musicale, mais avant, est-ce que vous avez le sentiment que l'environnement général, technologique, peut lancer des défis aux associations? On est dans un monde d'IA, dans un monde où les jeunes sont plus des start-upers que des... est-ce que ça peut y avoir des menaces à ce niveau-là? Menaces un peu technologiques, excusez-moi d'utiliser ces termes-là, mais...
Oui, je pense. Alors, en même temps, on a consacré une semaine à la jeunesse et on a pu constater, en début de saison, et on a pu constater combien il y avait là aussi une vitalité à ne pas sous-estimer, un désir d'engagement, de citoyenneté, de prendre toute sa place dans le secteur, souvent associatif, à défaut de croire encore aux politiques. Pas forcément un désenchantement à l'égard du politique, mais un désenchantement à l'égard des politiques qui ramènent autrement au politique dans toute sa noblesse, à l'engagement. Mais il est certain, et là j'avance prudemment parce qu'il faudrait des chiffres et je ne les ai pas sous les yeux, mais on peut effectivement supposer sans trop se tromper que... l'environnement technologique, les réseaux sociaux, l'IA, etc., enferment aussi beaucoup les jeunes générations dans des bulles virtuelles, souvent, qui les coupent justement de ce principe de réalité dont nous parlions et qui est au cœur de l'engagement citoyen associatif. Oui, certainement.
On fait une pause et puis on va parler de cette semaine thématique.
Et après, ça, il faut continuer. Bon, alors là, j'y suis là. On a fait quelque chose de bien ou pas?
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et oui, sur Aligre FM 93.1 avec la présidente Nadia Itayeb. Et là, on venait d'entendre la faconde de... Du basque volant Michel Portal qui nous a quitté il y a pas longtemps. Il a s'est tiré de son tout dernier album complètement en solo qui vient illustrer le film Quelques notes de liberté que vous pouvez encore voir sur les écrans. Je pense qu'il tourne encore. Nadia Itayeb,
Pardon, Jean-Marc, peut-être rappeler que si je ne me trompe, mais vous le savez sans doute mieux que moi, Michel Portal était parrain du festival Les Chaises Musicales, porté par une association. Vous voyez, la culture est très importante aussi au sein du monde associatif, puisque ce festival, il est porté par Au fil des ondes, qui est une association culturelle, si je ne me trompe, loi 1901.
Tout à fait. Alors, parlons maintenant de ce qui va attendre les auditrices et auditeurs à partir de maintenant, tout de suite, puisqu'on commence cette semaine thématique juste après cette émission.
Oui, et alors, on vous a concocté, malgré la canicule et la difficulté parfois à se réunir comme on l'aurait souhaité, un programme qui, je crois, est très riche et qui va commencer tout de suite après cette émission, à 9h, en compagnie de Francis Chapuis et de son étincelle dans la vie. Francis Chapuis est parti, figurez-vous, à la rencontre de fourmis qui jardinent. Voilà. Alors, les fourmis qui jardinent, c'est quoi? C'est une association qui est à quelques encablures de Césure, où nous avons nos studios, grâce au moment. Et c'est une association qui promeut l'agriculture urbaine à Paris, dans le quartier Dunois. Alors, il s'agit pas seulement de promouvoir l'agriculture, mais bien de former, d'insérer, donc de créer du lien social, hein, on y est, autour de la production de fruits et de légumes, et de promouvoir aussi de cette façon ce qu'on appelle le bien manger, en favorisant l'autonomie alimentaire, l'économie circulaire, la biodiversité, et puis des rencontres. Ça, c'est fondamental, des rencontres. Voilà, donc on va retrouver Francis Chapuis à 9h avec toute la faconde qui le caractérise auprès de l'association Les Fourmis qui Jardinent. Alors, on ne va pas vous décliner tout le programme, hein, mais sachez également que nous allons diffuser aujourd'hui même à 10h un reportage consacré au cinéma La Clé. Qui aime le cinéma aime La Clé.
Absolument.
Voilà, La Clé qui, après plusieurs années de lutte contre sa disparition, 2 ans d'occupation illégale, a rouvert ses portes. C'était, je crois, le 25 janvier dernier. Et c'est un lieu magique, La Clé, hein, parce que c'est un endroit où on ne se contente pas de regarder des films, mais comme dans toutes les logiques de ciné-club et de cinéma d'art d'essai, c'est un endroit où l'on rencontre des réalisateurs souvent très engagés, où l'on débat avec eux dans une atmosphère souvent très conviviale et festive. Et donc c'est Paul Valincel qui était présent le jour de l'inauguration et qui a réalisé ce reportage dans le cadre d'une collaboration entre Aligre FM et les ateliers radio menés par le BTS du lycée Évariste Galois, en partenariat avec INA Formation. Voilà, et puis je vous le disais tout à l'heure, j'aurai le plaisir pour ma part à 11h dans une émission spéciale de mettre à l'honneur une association qui mène un travail remarquable de terrain depuis sa création en 1946. Et il me semblait très important aussi d'avoir des associations qui nous permettent le temps long de l'histoire. Et c'est l'Amicale du Nid. Voilà. Oui. Alors, l'Amicale du Nid, pour le dire très brièvement, mais vous allez mieux le comprendre tout à l'heure, elle est fondamentale. Elle est née après la loi qui a aboli les maisons closes en 1945, et elle voit le jour guidée par l'envie et la nécessité d'accompagner des prostituées qui souhaitent se réinsérer et quitter ce métier. Toutes ne le souhaitent pas, on le sait depuis qu'on a lu Chrysalidis Réal, mais certaines ont besoin de cet accompagnement, et puis aujourd'hui elle mène un travail de terrain très important, je le disais, pour accompagner des mineurs pris dans des réseaux de prostitution.
Donc beaucoup, beaucoup d'émissions. Moi, je vais faire de la pub aussi.
Tiens, oui, Jean-Marc, j'allais vous poser la question. Mais voilà, on va parler culture aussi, bien sûr, dans le cadre de cette semaine. Alors, vous aussi, vous nous avez concocté avec Alex Dutille une émission passionnante. Dites-nous.
Eh bien, en fait, c'est une émission qui vise à montrer le relais que peuvent prendre des structures associatives ou coopératives par rapport aux structures commerciales. Donc, Alex Dutille fera la partie historique avec les grandes associations américaines, la ACM, et puis française, l'ARFI. Donc, ça sera la partie historique de ces groupes un peu coopératifs. Et puis, en deuxième partie, on aura le plaisir de recevoir Antoine Boss, qui dirige l'association Jazz Croisé, qui repère, promeut, manage, coach et produit des jeunes talents du jazz.
Voilà, donc de la musique et des cultures du monde, avec le festival Autre Brésil, porté par l'association du même nom, que recevra Gilles Bourgarel. Gilles Bourgarel qui nous propose une émission riche, où on peut parler de culture brésilienne, tout en sirotant un café dans un café associatif. Voilà, donc on a essayé de...
L'écologie aussi.
Et l'écologie, bien sûr, avec François Delaunay. Alors François Delaunay nous propose une émission sur l'environnement. Je n'ai plus, excusez-moi, le titre de l'émission, mais c'est une émission qui met à l'honneur une association importante également. Et puis, il nous propose deux émissions qui vont, je le disais tout à l'heure, permettre de faire un état des lieux du secteur associatif. Aujourd'hui, une avec Jean-Baptiste Jobard et une autre avec et ben je me perds dans mes notes, vous retrouverez le programme avec Yannick Blanc. Et tout ce programme, évidemment, vous le retrouvez sur le site de la radio et puis en nous suivant tout au long de cette semaine sur nos réseaux sociaux.
Au cœur de la semaine, on va tomber le 1er juillet. Et donc le 1er juillet, ça sera exactement les 125 ans de la loi de 1901. Qu'est-ce que vous avez prévu ?
Alors, le 1er juillet, Aligre sera partenaire d'une soirée spéciale portée par le mouvement associatif et France Générosité. C'est une soirée qui s'inscrit dans un... programme, un cycle d'événements intitulé Le cœur qui bat, la France qui bat, pardon, et qui justement rappelle combien le monde associatif est important pour notre démocratie et combien il est important de préserver et de défendre sa vitalité. Alors, ce sera une émission déplacée à la Maison des Métallos. Qui sera animé par trois animateurs d'Aligre FM, Patrick Léon-Émile, Éric Dauter et François Delaunay. Et cette soirée permettra non seulement de mettre à l'honneur des grandes associations comme AIDE, par exemple, mais aussi la Fondation des Femmes et d'autres, et puis également de revenir sur la situation en compagnie d'un certain nombre d'acteurs qui œuvrent en faveur du monde associatif, parmi eux notamment Claire Toury, qui après avoir été présidente du mouvement associatif, a été élue tout récemment présidente du CESE, ce qui est important.
Absolument. Nadia et Taïeb, un grand merci de... Un grand merci... Ah, c'est trop tôt, non c'est...
Je ne sais pas, 8h50.
Un grand merci de nous avoir présenté cette semaine thématique sur Aligre. On va être tous à l'écoute. Puis, de toute façon, toutes les émissions seront disponibles en podcast. Il nous reste à suivre l'émission dont vous parliez tout à l'heure de Francis Chapuis, L'étincelle dans la ville. Il nous reste à remercier Enrico Mastrogiovanni qui était à la technique et qu'on salue comme ça de la main. Voilà. Et puis remercier aussi Le Moment qui nous accueille dans les locaux de Césure et grâce à qui ces émissions sont possibles.
Voilà, et rappelez aussi que Le Moment nous propose un certain nombre de programmes tout à fait passionnants autour de la santé notamment, et que grâce au Moment, nous accueillons sur l'antenne la Chance, une association qui permet à des jeunes issus de milieux qui ne les y prédisposait pas, de préparer dans de bonnes conditions les concours de journalisme. Et ça, c'est très important pour le pluralisme médiatique. Hein. C'est une réponse, me disait Marc Epstein, qui viendra peut-être sous réserve sur l'antenne d'Aligre cette semaine. Je ne l'ai pas encore prévenu, alors je ne devrais pas en parler, mais qui m'expliquait, quand je l'ai rencontré, que cette association, elle vient aussi répondre à une demande de France Télévisions pour faire émerger au sein des journalistes des gens venus d'horizons différents et qui ont une connaissance aussi parfois plus pointue, plus concrète des réalités du terrain dans les quartiers populaires, par exemple, vous voyez. Et donc Le Moment, nous concocte une soirée, alors ça va être un peu la surprise, une soirée en public ici même à Césure, n'hésitez pas à venir, c'est mardi, voilà, à 18h.
Alors Césure, on rappelle l'adresse, hein, c'est 13 rue Santeuil, dans le 5e arrondissement, au métro Sancier. Eh ben, Nadia et Taïeb, on va se quitter. Si on devait dire un mot un petit peu optimiste aux auditeurs et auditrices, on leur dirait quoi ? Continuez comme ça, engagez-vous.
Oui, motivez. Soyez motivés, continuez et continuez à vous engager parce que ça donne beaucoup de sens et c'est ensemble qu'on arrivera à créer du commun et une société dont on a envie et qui nous ressemble.
Absolument. On se quitte avec un morceau que vous avez choisi, Nadia et Taïeb.
Motivé, Zebda. Motivé. Petit retour en arrière, nostalgique.
Allez, on se retrouve bientôt.
Et on remercie Enrico Mastrogiovanni qui était à la technique aujourd'hui, ainsi que, alors je n'ai pas son nom, pardon, Anatole. Voilà, alors c'est pas très pro, on ne donnera pas son nom aujourd'hui, mais les prochaines fois, il aura le droit à son prénom et à son nom.
Allez, on se quitte avec Zebda. Merci Nadia et Taïeb.
Merci à vous Jean-Marc Gélin.
Motivé.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.